VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 18h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Mali, arrêt des combats qui avaient commencé hier près de Kidal, dans l'extrême nord-ouest, entre ex-rebelles et membres du groupe armé pro-gouvernemental Gatia. Les hostilités ont opposé des éléments de la CMA, la coordination des mouvements de la Zawad à dominante Touareg, aux forces du groupe d'autodéfense Touareg Imgad et alliés Gatia, qui appartient au mouvement de la plateforme, une coalition pro-gouvernementale. Les deux camps s'étaient déjà affrontés les 21 et 22 juillet à Kidal même, puis le 30 juillet à une quarantaine de kilomètres à l'est de la ville. Pas de bilan des tout derniers affrontements jusqu'à présent. Et toujours au Mali, l'armée malienne a annoncé ce mercredi avoir récupéré les corps de 5 soldats portés disparus depuis une attaque lundi dans la région de Mopti, dans le centre du pays. 4 corps ont été retrouvés mardi et un cinquième ce mercredi matin dans le secteur de Tenenkou, a déclaré un responsable du service de communication de l'armée malienne. À ce stade, on ne peut pas préciser la cause de la mort. Nos services examinent encore les dépouilles, a-t-il ajouté, sans plus de détails. Les 5 soldats étaient portés disparus depuis l'attaque contre l'opposition entre Tenenkou et Sévaré lundi, qui avait été précédée d'une embuscade dimanche contre un convoi de ravitaillement, d'après plusieurs sources militaires maliennes. Une de ces sources a attribué l'assaut au groupe djihadiste malien en Sardine. En Libye, les forces pro-gouvernementales libyennes disent avoir pris aujourd'hui le contrôle du campus universitaire à Sirte, resserrant encore plus l'étau autour du groupe djihadiste État islamique dans cette ville du nord du pays. Les forces du gouvernement d'Union nationale GNA sont entrées le 9 juin à Sirte, mais leur offensive pour en chasser l'EI a été ralentie par la résistance féroce des islamistes. Sous la pression des forces du GNA, les djihadistes ont été contraints ce mercredi de fuir le campus et de se replier sur un secteur tout proche situé entre l'université et le complexe des salles de conférence Ouagadougou où se trouve le centre de commandement de l'EI. Au moins 20 corps de djihadistes ont été découverts après les combats d'aujourd'hui, annoncent les forces pro-gouvernementales libyennes. La lutte contre Boko Haram au Sahel, les États-Unis ont promis 37 millions de dollars supplémentaires pour venir en aide aux populations de la région du lac Tchad, touchées par l'insurrection djihadiste de Boko Haram. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui des diplomates américains. Le gouvernement américain, à travers son agence d'aide au développement USAID, apportera plus de 37 millions de dollars en complément de l'aide humanitaire déjà en cours dans la région, peut-on lire dans un communiqué de la mission diplomatique des États-Unis à Abuja, précisant que cet argent servirait particulièrement aux habitants de Difa, dans le sud du Niger. L'enveloppe s'ajoute aux 378 millions de dollars déjà versés depuis 2015 par Washington pour apporter un soutien humanitaire à la région. Le Soudan du Sud a rejeté ce mercredi une proposition des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer 4 000 soldats supplémentaires sur son territoire, en soulignant qu'elle porte gravement atteinte à sa souveraineté et menace d'un retour au colonialisme. Les précisions de Nathalie Barge.
Le porte-parole du gouvernement sud-soudanais, Michael Makuei, a déclaré que la proposition donne aux Nations Unies la capacité de gouverner. Le texte appelle notamment à un vote d'embargo sur les armes au Soudan du Sud si le secrétaire général Ban Ki-moon rapporte dans une période d'un mois que les autorités ont bloqué la force régionale. Le Conseil de sécurité pourrait voter vendredi sur la proposition. Après la reprise des combats le mois dernier, un ancien envoyé spécial américain avait suggéré que l'Union africaine et l'ONU administrent temporairement le pays. Des responsables onusiens disent que le gouvernement a commencé une répression en saisissant des dizaines de passeports de travailleurs de l'organisation et en imposant des restrictions sur les voyages et la livraison de l'aide alimentaire. La reprise de combats meurtriers le mois dernier dans la capitale Djouba, après l'accord de paix signé en août 2015, a suscité la crainte d'une nouvelle guerre civile et aggravé la crise humanitaire au Soudan du Sud.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, Jean-Francis Bozizé est maintenant en liberté provisoire, mais il reste dans le collimateur de la justice. Le fils de l'ancien président centrafricain François Bozizé a été libéré hier après avoir été entendu par un juge au tribunal de Bangui, la capitale. Il avait été arrêté le 5 août et maintenu pendant 4 jours à la SRI, la section des recherches et d'investigation de la gendarmerie. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila fait le point.
Après une première audience avortée lundi, c'est finalement tard dans la soirée du mardi que Jean-Francis Bozizé a été auditionné par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bangui. Après avoir pris connaissance des charges qui pèsent contre lui, l'ancien ministre délégué de la Défense sous le règne de son père François Bozizé est autorisé à recouvrer provisoirement sa liberté. Jean-Louis Opalanya, un de ses avocats, qualifie d'un dossier vide les faits reprochés à son client.
Il doit attendre une convocation et on reviendra plus tard pour qu'il puisse donner sa version des faits qu'on lui reproche par rapport aux infractions dont la teneur lui a été donnée. Et il a sa version des faits qu'il n'a pas donnée aujourd'hui. Il s'est réservé de le faire dans les jours à venir. Pour le moment, je peux dire que c'est un dossier qui est vide.
Placé sous contrôle judiciaire, Jean-Francis Bozizé est interdit de toute sortie de la capitale centrafricaine. Il est privé de ses libertés fondamentales et des s'exempter de porter une arme. Tout comme son père, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour assassinat, arrestation arbitraire, séquestration, détournement des deniers publics et actes de nature à compromettre la paix publique. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Zambie vote jeudi pour choisir son président dans un scrutin qui s'annonce très serré entre le chef de l'État sortant Edgar Lungu et son rival Hakainde Hichilema après une campagne électorale émaillé d'incidents. Les détails avec Tatiana Mosso.
Monsieur Lungu, 59 ans, a été élu président en janvier 2015 pour achever le mandat de son prédécesseur Michael Sata, décédé brutalement en octobre 2014. Il avait battu d'une très courte majorité Hakainde Hichilema, qui avait qualifié le scrutin de simulacre et qui se présente jeudi pour la 5e fois à la présidentielle. Le niveau de tension est plus élevé que par le passé. Des militants du parti de M. Lungu, le Front Patriotique, ont attaqué lundi un bus de campagne du Parti Uni pour le développement national de M. Hichilema. Des actes de violence sans précédent qui salissent le bilan historique d'élections pacifiques de la Zambie. Ces dernières semaines, les violences avaient conduit à la suspension de la campagne à Lusaka. Pendant cette campagne, le candidat Lungu a montré un visage plutôt radical, menaçant ses opposants à plusieurs reprises. Le vainqueur du scrutin de jeudi sera élu pour un mandat de 5 ans. Si aucun des deux candidats n'obtient plus de 50% des voix, un second tour sera alors organisé. L'enjeu de cette élection se joue autour de l'économie. L'an dernier, le président Lungu a même organisé une prière dans un stade implorant un redressement de l'économie. Hakainde Hichilema, un économiste de 54 ans qui a étudié en Grande-Bretagne et fait fortune grâce à des investissements dans l'immobilier et la santé en Zambie, lui a mis en avant son expérience dans le domaine des affaires.
Aux Jeux Olympiques de Rio, le compteur toujours bloqué à 2 médailles d'argent pour les participants africains. Les 2 médailles de la natation sud-africaine. En football féminin, il ne reste plus de représentants africains après l'élimination de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Les Sud-Africaines portent la tête haute après un match nul 0-0 face au Brésil déjà qualifié. Les Zimbabwéennes, elles, s'en vont après une nouvelle défaite écrasante 6-1 hier face à l'Australie. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Pas de miracle pour les Zimbabwéennes qui clôturent leurs Jeux Olympiques de Rio comme elles l'ont débuté par une lourde défaite 6-1 face à l'Australie. Cette première participation de Maktai Warriors du Zimbabwe au tournoi féminin de football des Jeux Olympiques a finalement tourné à la correctionnelle. 3 défaites en autant de matchs dans un groupe F qui n'était visiblement pas à leur taille. Déjà éliminés après le 6-1 leur infligé par l'Allemagne d'entrée, puis la défaite 3-1 face au Canada lors de la 2e journée, elles avaient pour seule mission de sauver l'honneur ce mardi contre l'Australie. Mais c'est finalement une nouvelle raclée qu'elles ont reçue. Seule consolation en dehors de l'expérience unique des JO pour les Maktai Warriors du Zimbabwe, le fait d'avoir inscrit à chacun de leurs 3 matchs le fameux but de l'honneur. Rio, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et pour terminer la campagne présidentielle ici aux États-Unis avec la nouvelle controverse autour de Donald Trump, l'aspirant républicain à la Maison-Blanche, la déclaration qu'il a faite en accusant la candidate démocrate Hillary Clinton de vouloir abolir le deuxième amendement de la Constitution américaine qui garantit le droit de porter les armes. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.